Beur FM. Des pays en débat. Pierre-Henri.
Vous posez parfois des questions sur l'actualité ou l'histoire, la géographie d'un pays. Un pays en débat, c'est une émission où nous pouvons nous interroger tous ensemble sur le principe des libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Ça vous plaît? Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beur FM.
Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek. Tadım tuzum olacaksın benim.
Gülsen, la chanteuse que vous entendez là, risque plusieurs années de prison. Son crime ? Avoir fait une remarque en plein concert sur les écoles Iman Hatip qui incarnent l'éducation religieuse dans notre pays du jour, la Turquie. Il faudrait remonter loin pour comprendre la genèse d'une culture qui s'étendait des Balkans au Maghreb, au carrefour entre l'Orient et l'Occident. La Turquie hérite d'une histoire riche et glorieuse qui remonte à l'Empire ottoman. Mais on peut aussi considérer que la Turquie telle qu'on la connaît n'apparaît qu'en 1923 avec sa première république. Il est impossible d'évoquer la naissance de l'État turc sans citer le nom d'un homme qui chamboule l'histoire du pays. Je parle bien sûr de Mustafa Kemal ou d'Atatürk, celui qui se revendique le père de la Turquie moderne. Mustafa Kemal fait de la Turquie un pays laïque, inspiré des valeurs de la Révolution française, mais l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan en 2014 anéantit toute forme de laïcité. Les hijabs sont de retour et l'éducation religieuse est enseignée à l'école. L'ambiguïté politique et diplomatique du nouveau président turc questionne les pays alliés, au sein de l'OTAN notamment. Nous l'avons vu ces derniers mois avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, entre condamnation de la Russie d'un côté, soutien à Poutine de l'autre, Ankara apparaît comme un élément perturbateur de l'Alliance à l'heure où l'Union est une force. Son adhésion à l'Union européenne n'est toujours pas acceptée depuis 1987. Ankara n'a pas appliqué certains droits fondamentaux chers à l'Union européenne. Plusieurs fois, notamment, la Turquie a fait l'objet de rappels concernant les droits de l'homme après la répression des minorités ethniques et religieuses. N'oublions pas les Kurdes, menacés au temps d'Atatürk. Ils ne se trouvent pas, hélas, dans une meilleure situation dans la Turquie d'Erdogan. Quant à la minorité Alevi, elle est toujours considérée comme hérétique. La logique nationaliste est très présente dans la politique d'Erdogan, qui développe des relations diplomatiques aux ambitions floues. Dans un même temps, il a fait de la Turquie un pays répressif, autoritaire et liberticide. L'inflation dépasse 80%, vous avez bien entendu, 80% d'inflation pour les 85 millions d'habitants qui en sont les premières victimes. Rappelons qu'en juillet dernier, Ankara a signé la sortie de la Convention d'Istanbul qui lutte contre les violences faites aux femmes. Une décision à contre-courant des avancées internationales sur le sujet et qui la met en porte-à-faux avec les 40 pays sur 46 qui l'ont signée. Eh bien, pour en parler, nous allons recevoir Élise Massicard. Élise Massicard est politologue, sociologue. Elle est spécialiste de la question Alevi, elle est rattachée au CNRS au sein du département de la Turquie contemporaine. Bonjour Élise Massicard.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de la Turquie. Ce qui caractérise une démocratie, c'est notamment les droits de l'opposition à critiquer le gouvernement. Quelle est la situation en Turquie ?
Alors, les droits de l'opposition à critiquer le gouvernement sont de plus en plus problématiques, notamment depuis l'état d'urgence qui avait été instauré en 2016 suite à la tentative de coup d'État.
Ah, ça fait quand même 6 ans que ça dure, donc.
Voilà, en fait, l'état d'urgence a duré pendant 2 ans jusqu'en 2018. Mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que les mesures de répression qui ont touché l'opposition, elles ont touché évidemment à cette période-là le mouvement guléniste qui a été considéré par le pouvoir comme responsable de la tentative de coup d'État. Mais cette répression a touché aussi plus largement d'autres pans de l'opposition. Donc, en particulier le mouvement pro-kurde et la gauche un petit peu radicale. Et donc, en fait, c'est pratiquement toute l'opposition qui s'est retrouvée touchée par ces mesures répressives. Et puis, donc, des organisations ont été fermées, en particulier des individus ont été poursuivis. Et par exemple, pour la fermeture d'organisation, la fin de l'état d'urgence en 2018 n'a pas signifié un retour à la
Elle est normale.
situation antérieure.
Oui.
Voilà. Donc en fait, il y a une forme. Alors, les mesures sont plus complètement en vigueur, mais quelque part, ça a réduit durablement, je veux dire, le champ d'action de l'opposition. Alors, ceci étant dit, il y a quand même une opposition en Turquie et elle s'exprime et elle critique le gouvernement.
Alors justement, elle s'exprime où? Quel est le statut des médias et la liberté de la presse est-elle garantie?
Alors, la liberté de la presse a connu ces dernières années plusieurs formes de régression assez nettes, en particulier suite encore à ces 2 ans d'état d'urgence. Il y a beaucoup d'organes médiatiques, presse, télévision, etc., qui ont été fermés. Mais au-delà de ça, on a des formes de criminalisation, en fait, de certaines critiques du gouvernement et de plusieurs formes d'expression. Et concernant les médias en particulier, on a eu plusieurs mesures, alors notamment en 2020 sur les plateformes, parce qu'en fait, il faut garder en tête qu'une grande partie des médias aujourd'hui en Turquie est soit directement contrôlée par le gouvernement, soit indirectement, c'est-à-dire à partir, on va dire, de grands groupes qui ont des organes de presse et qui ont des liens de dépendance avec le gouvernement. On estime que, voilà, il y a à peu près 90% des médias qui sont proches du gouvernement. C'est pas,
Ah oui, 90%.
voilà. Et en fait, c'est sur Internet que, il y a encore le plus, je dirais, de liberté d'expression. Donc il y a des plateformes d'information alternatives qui se sont formées, par exemple, et les réseaux sociaux qui fournissent toujours beaucoup d'informations alternatives, mais ils ont été l'objet de beaucoup de mesures ces derniers temps, notamment en 2020, une loi qui oblige les plateformes du type Facebook, Twitter, etc., à avoir une représentation légale en Turquie qui s'expose à des sanctions, par exemple, si elle refuse de retirer certains contenus,
D'accord.
contrairement à la demande des autorités turques. Et très récemment, au mois d'octobre, une loi qui criminalise, en fait, je cite, la propagation d'informations trompeuses, en fait, de fake news, que ce soit par des journalistes professionnels ou par des individus sur des plateformes ou des réseaux sociaux, qui fait qu'en fait, comme on ne sait pas très bien comment, qui juge du fait qu'une information est trompeuse ou pas trompeuse, ça risque
Oui.
très fort de restreindre la liberté d'expression sur ces plateformes et sur ces sites qui
D'accord.
restaient l'espace le plus libre d'expression.
Alors, sur un autre plan, nous avons noté que la Turquie d'Erdogan est sortie de la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Est-ce que ça traduit quelque chose du mandat d'Erdogan et comment s'organise dès lors la résistance des femmes?
Oui, alors cette sortie de la Convention d'Istanbul, peut-être qu'il faut rappeler que c'est un traité européen qui protège les femmes contre les violences. Et c'est d'autant plus
Oui, c'est le
étonnant
Conseil de
que.
l'Europe, oui. 40
Voilà.
pays sur 46
C'est
ont
ça.
signé, oui.
Et d'autant plus étonnant que la Turquie, je crois, avait le premier État à signer cette convention il y a 10 ans. Et en fait, il faut garder en tête ce pourquoi la Turquie est sortie, en fait, et comment elle est sortie, hein, de cette convention.
Oui.
En fait, dans cette convention, en fait, elle stipule que les hommes et les femmes ont des droits égaux. Hein,
Oui.
et
L'égalité de
que
genre, quoi.
Voilà, et elle oblige les gouvernements à prendre des mesures pour prévenir les violences conjugales à l'égard des femmes et protéger les victimes, poursuivre les auteurs. Donc en fait, c'est quelque chose qui a toujours été contesté à l'intérieur du parti au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut voir que l'AKP, le parti actuellement au pouvoir, le parti d'Erdogan,
Oui, la
sur
KP,
ce
oui.
type de question est assez divisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très conservateurs et qui veulent, depuis le début, on ne voulait pas du tout que la Turquie signe cette convention. Et il y a des milieux beaucoup plus libéraux aussi, qui, au contraire, ont poussé à ce que ça soit signé. Donc, et les équilibres ont changé, en fait. Le pouvoir en est sorti sur décret, c'est-à-dire sans passer par le Parlement, précisément parce que c'est une question extrêmement contestée. Et il en est sorti parce que dans cette convention, il y a aussi la protection des différentes options, des orientations sexuelles. Et c'est surtout ça qui a été
Oui.
affirmé par le pouvoir comme raison ou peut-être prétexte pour en sortir,
Alors,
avec comme idée, on va dire, la protection de la famille traditionnelle, d'un modèle familial patriarcal et l'idée que les hommes et les femmes ont une égale valeur mais ne sont pas vraiment égaux mais sont différenciés, je dirais, donc
d'accord.
qui est maintenant...
Mais il y a une résistance, pardon, mais parce que nous arrivons quasiment au terme de l'entretien, il y a une résistance des femmes.
Alors
Comment
oui,
s'organise-t-elle?
le mouvement féminin, faut voir que c'est un des mouvements les plus structurés en Turquie. Évidemment, les organisations féministes ont été vent debout contre la sortie de la Turquie de la Convention d'Istanbul, mais même les mouvements de femmes conservateurs, parce qu'il y a des organisations féministes conservatrices ou des organisations de femmes islamistes qui également ont vraiment été extrêmement critiques à l'égard de cette sortie de la Turquie de la Convention d'Istanbul et qui continuent à manifester leur désaccord et qui continuent à demander plus de protection pour les femmes et plus de droits pour les femmes.
Donc en Turquie aussi, on assiste à ce mouvement universaliste qui réclame l'égalité de genre, et c'est une bonne chose.
Ce mouvement est très structuré et très, très présent en Turquie, tout à fait. Même si le mouvement des femmes, il est divisé entre différentes options,
Mais.
certains plus conservateurs, certains plus libéraux, d'autres plus de gauche, enfin il y a plusieurs options, on va dire, mais globalement c'est quand même un des mouvements les mieux structurés dans la société civile turque actuelle.
Eh bien, c'est sur cette note d'espoir que nous allons nous quitter pour aujourd'hui. Des pays en débat, c'est terminé. Une série d'émissions produites par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Et merci à Alice et Tariq, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.
C'était Des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.